Quand il était revenu avec Brindelin sur ses épaules, tout le monde avait été touché par le courage de ce garçon qui allait au-devant de ceux qu'il avait condamnés. Il avait raconté la mort de Vidoff et provoqué la fulgurante peine d'Ilaya. Elle lui avait jeté des poignées de boue, puis elle avait voulu en manger. « Tu l'as tué ! Tu l'as tué !» Elle enfouissait ses poings noirs dans sa propre bouche. On se mit à quatre pour la tenir. Tête de Lune expliqua à sa sœur que Toby n'y était pour rien. Mais personne ne pouvait contenir le chagrin et la rancœur de la jeune fille. Elle portait un masque de haine. Le courage de Toby, son émotion devant Ilaya, prouvait qu'il n'était pas un ennemi comme les autres. Mais les Pelés, une nouvelle fois, décidèrent de le reconduire dans l'arbre. Trop de malheurs étaient descendus de cette planète verte. Tout ce qui venait de l'arbre devait y retourner. Toby entendit ce nouveau verdict sans y croire. L'expédition partit dès le lendemain. Cette fois-ci, Toby était accompagné par deux hommes. Ils le portaient roulé dans un hamac suspendu à une perche qu'il se calait sur l'épaule. Le troisième matin, les deux Pelés réalisèrent qu'ils transportaient une toile remplie d'un mannequin de terre. Toby leur avait encore une fois échappé. Ils repartirent chez eux pour annoncer que Petit Arbre s'était enfui. Mais ils le retrouvèrent assis à côté de Tête de Lune devant une assemblée perplexe. Toby était arrivé avant eux. Comment se débarrasser de ce feu follet ? Tu dois retourner chez toi. Tuez-moi plutôt. Je n'ai pas de chez moi. La foule des Pelés ronronnait à chaque réponse de Toby. Ce petit parlait comme l'un des leurs. Il semblait né dans les herbes. Pour la troisième fois, on trouva des volontaires qui voulurent bien l'accompagner jusqu'à la grande frontière. Le matin du départ, avant même le lever du jour, une fine pluie tombait sur la prairie. Toby, attaché en hauteur à un fuseau d'herbe, regardait les Pelés sortir de leurs abris pour s'exposer à l'eau pure dans la nuit sans lune. Il voyait la boue dégouliner sur leur peau. Lui-même, suspendu en l'air, jetait la tête en arrière pour recevoir les gouttes de pluie. Une goutte plus grosse que les autres tomba sur lui et le lava en un instant. Alors, tous les Pelés qui se trouvaient alentour se tournèrent vers lui. Toby décela dans leurs yeux écarquillés un reflet bleu. Des enfants s'approchèrent les premiers sous la pluie battante. Puis, tout le peuple se rassembla sous lui. Il fixait le dessous de ses pieds. Toby découvrit sur la plante de ses pieds le mince filet lumineux qui dégageait une couleur bleue. C'était la ligne dessinée par Elisha à l'encre de chenille avant son départ. Une fois lavée à l'eau de pluie, cette ligne luisait dans la nuit, comme le dessous des pieds d'Elisha. On détacha Toby de sa tige d'herbe. Il ne comprenait rien. « Reste, fais ce que tu veux. Tu as le signe. » Voilà ce qu'on lui dit avant de l'abandonner, libre sous la pluie. La foule se dispersait dans un halo bleuté. Sous leurs pieds lavés par la pluie, était apparu le même trait d'encre lumineuse. Toby, incrédule, se traîna ce matin-là jusqu'au petit bosquet de roseaux. Il y passa les premiers mois, sans autre visite que celle de Tête de Lune, qui venait à l'insu de sa sœur. « Elle ne veut pas que je m'occupe de toi. Elle est trop triste. Obéis-lui. Ne viens plus me voir. » Mais Tête de Lune alla chaque jour rendre visite à Toby. Lentement, le petit lui enseigna en secret comment vivre dans l'herbe. Lentement, Toby découvrit la dureté de cette vie. Il fut d'abord tenu à l'écart. La communauté craignait ce garçon, apparu de nulle part, mais qui portait le signe comme l'un des leurs. Le premier été, Toby ne se douta pas de ce que pouvait signifier une vie entière passée dans l'herbe. Le temps était doux et sec, les conditions idéales. Il apprit auprès de Tête de Lune à chasser avec une sarbacane. Il eut toujours de quoi manger et aménagea son abri dans les roseaux. Il retrouvait la joie d'être libre. C'était la seule joie qui lui restait. mais les premiers orages de la fin août le ramenèrent à la réalité. Toute la prairie fut inondée. À partir de ce jour, et pendant 6 mois, il ne vit plus brin de lin. Quand arriva l'automne, il avait déjà déménagé 3 fois pour fuir l'eau, la boue, le vent. Et le pire l'attendait. Les premières gelées furent terribles. Puis la neige ne manqua pas. L'hiver ne fut qu'un interminable combat. Maltraité par les rigueurs du ciel, embourbé dans la terre, Toby ne pensait plus, ne souffrait plus. Il survivait. Par miracle, il avait débusqué avant la neige un morceau d'un minuscule tubercule qui lui servit de pitance. Il devint un enfant sauvage, petit animal ramassé sur lui, qui affronte l'hiver avec un seul instinct, tenir. Au premier jour du printemps, quand un groupe de chasseurs pelés se retrouva nez à nez avec un petit être aux cheveux désordonnés et au regard dur comme la glace, ils ne purent reconnaître Toby. « C'est moi. Je suis petit arbre. » Les chasseurs eurent un mouvement de recul. Le feu follet avait survécu à l'enfer. Les gens de l'herbe changèrent désormais de regard sur petit arbre. Peu à peu, ils l'intégrèrent à la vie commune. Toby découvrit alors les secrets de survie accumulés par ce peuple au fil des générations. Deux fois, il rencontra Ilaya qui refusa de croiser son regard. Deux fois, elle lui rappela la silhouette butée d'Elisha. Il chassait ce souvenir comme une fumée qui l'asphyxiait. Toby ne laissait pas à sa mémoire le droit de faire ressurgir le passé. Il construisait sa vie nouvelle sur le vide, sans se douter que ses fondations finiraient par s'effondrer sur ce labyrinthe de galeries mal rebouchées. Un jour août, dans la grotte du lac, Toby disait à Elisha qu'il rêvait d'une nouvelle vie. Elle lui avait répondu « Tu n'as qu'une vie, Toby. Elle te rejoindra toujours. » Toby tentait de faire mentir cette loi. Le second hiver fut moins rude. Toby découvrit la force extraordinaire de l'unité. Ce peuple tenait par tous les liens qu'il savait tisser. Dès l'été, il liait ensemble les tiges de longues herbes qu'il laissait bien en terre. Cela donnait une touffe rigide, comme un donjon, dans laquelle ils se rassemblaient tous au premier froid. Le vent, la neige, les torrents de boue ne parvenaient pas à faire s'effondrer ce château de paille. Toby eut le droit d'occuper un épi. C'est au cours de cet hiver qu'il réussit peu à peu à apprivoiser Ilaya. Tête de lune, qu'on appelait encore brin de lin, vit alors sa sœur retrouver des pommettes plus rouges et des yeux moins hostiles. Elle ne parlait pas encore à Toby, mais elle acceptait de l'écouter, les yeux baissés. Toby ne se doutait pas qu'il faisait naître quelque chose de plus profond dans le cœur de la jeune pelée. Il y a un proverbe pelé qui dit « Ce que l'on sème dans une plaie avant qu'elle ne se ferme donne une fleur captive qui ne meurt jamais. » Ilaya était en train de tomber amoureuse. Elle passait lentement d'une haine passionnée à une autre forme de passion. On aurait pu imaginer que ces deux cœurs, balayant une bonne fois leur passé, puissent se retrouver et assembler un bonheur nouveau. Mais le cœur de Toby était prisonnier dans les caves sombres de sa mémoire. Un événement extraordinaire vint l'en sortir et replonger Toby dans l'aventure de sa vraie vie. « Tu n'as qu'une vie, Toby. »